C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107FM ou sur radiobartas.net. Nous sommes le lundi 13 mars, il est 8h33 exactement, nous sommes en direct. Arthur est à la technique, bonjour Arthur.
Bonjour Ben et bonjour chers invités.
C'est toujours un plaisir de l'accueillir, il va co-animer cette émission avec moi en tant que bénévole de longue date de Radio Bartas mais aussi correspondant de Midi Libre. Salut François.
Salut Ben, salut à tous.
Ça y est, t'es réveillé avec le petit générique?
Oui, ça va.
Ça va le faire. Le programme de cette matinale est assez simple. Flora qui est à l'honneur, nous recevons Flore Théron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la mère de Florac, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à mi-mandat. Alors comment va Florac? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui va se faire dans notre petite bourgade? C'est bien de ça dont on va parler, dont il va être question aujourd'hui. On a plein de choses à se dire, on a à peu près une heure, alors pas de blabla inutile et on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. C'est rare, mais il y aura deux gros mots dans cet édito. Ce n'est que l'édito des Bartas. Je sais que ce que je vais dire ne va sans doute pas plaire à tout le monde, tant pis. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons passer Florac et les environs à la loupe. On va faire du local et ça va être génial. Mais pour commencer cet édito, prenons un peu de hauteur et parlons d'Europe. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion houleuse sur ce sujet. Mon interlocuteur, dont je tairai évidemment le nom, m'a fait cette déclaration laconique. Je cite « L'Europe, c'est de la merde ». J'ai été pris d'un vertige. À quel moment ça a merdé? Je suis un enfant de l'Europe. Belge, italien, français, simple. J'ai eu la chance, dès ma plus tendre enfance, de circuler librement, sans contrôle, sans barrière. Allemagne, Autriche, Hongrie, Espagne, Portugal, j'en passe et des meilleurs. Ma maman disait toujours, un jour, nous serons de nationalité européenne. J'y croyais, j'y crois encore. J'aimerais surtout que l'on soit citoyen du monde, mais dans l'attente, citoyen européen, c'est déjà pas si mal. À quel moment ça a merdé? Le nationalisme gronde partout. Refermons les frontières, peut-on entendre dans pas mal de pays. Ça vous fait pas flipper? Évidemment, et c'est le propre d'une démocratie, l'institution européenne est critiquable. Elle a ses failles. Imaginez, prendre des décisions à 28 autour d'une table qui plaise à tout le monde, c'est pas facile. Notre Assemblée nationale x 28, ouche, dur dur. Sans oublier son petit lot de personnes malhonnêtes ou corrompues, on l'a vu avec l'extrême droite française et ses emplois fictifs, pas mal pour des anti-Europe quand même, ou plus récemment, avec le Qatargate, où certains députés auraient été achetés pour promouvoir les intérêts de ce petit pays. Bref, l'institution européenne est loin d'être parfaite et je l'entends très bien. Ce n'est que l'édito des Bartas. L'Europe, c'est pourtant l'idée la plus géniale et il faut se rendre compte, je pense, de la chance que nous avons de l'habiter. Elle symbolise la paix, la fraternité entre les peuples différents qui se sont livrés des guerres dont vous connaissez l'unique fin, des millions de morts pour rien. Voyez ces pays aux portes de notre Union, Ukraine, Moldavie, Géorgie, pour ne citer que cela, en proie d'une Russie extensionniste et belligérante. Écoutez leur jeunesse qui n'ont qu'un souhait, rejoindre l'Europe pour éviter de sombrer dans la dictature poutiniste. Rendez donc compte de là où nous habitons, ce magnifique projet, l'Europe. L'Europe, qui est critiquable à souhait, est loin d'être parfaite comme toutes les bonnes familles. Je voulais des frites à midi. Eh bien, tu auras des pâtes. C'est ce qu'on a voté ensemble. Et nous verrons demain. Repropose tes frites et nous voterons et nous verrons. Pas facile de faire un plat qui plaise à 28. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que tu pourras toujours dire que le plat ne te plaît pas. Et tu pourras revoter pour un autre plat le lendemain. Tu n'auras pas cette soupe froide et mauvaise que l'on sert là-bas et que certains partis politiques nous servent ici. Là-bas, tu sais, cette soupe, sans doute que personne n'en veut, mais ils n'ont même pas le droit de le dire et de dire que c'est de la merde. Là-bas, on se tait ou on meurt. Alors oui, l'Europe aujourd'hui, elle manque peut-être d'un peu de sel, d'un peu de poivre. Peut-être n'est-elle pas à ton goût, mais elle est en tout cas le plat de toutes nos différences. L'Europe essaye de garder les 12 étoiles qu'elle a sur son drapeau et je ferai partie de ceux qui rajouteront un peu de sel, un peu de poivre pour qu'elle les garde. Car l'Europe, c'est en fait le meilleur plat qui soit. Bien sûr qu'on peut le critiquer, comme toute bonne démocratie. On peut ne pas l'aimer, j'avoue, mais c'est tout sauf de la merde. Et comme dans toutes les institutions, du local jusqu'à l'Europe, je t'assure qu'il est possible que tu y mettes aussi ton grain de sel. Flore, si on commence par ça, la défiance des politiques et des institutions, ça vous parle et est-ce que vous la comprenez ?
La défiance des politiques par rapport à l'Europe, j'entends.
L'Europe,
ouais. Ben, écoutez, moi je fais partie d'une génération bien bien antérieure à la vôtre. Et moi il y a une phrase qui me revient beaucoup, c'est « il faut faire l'Europe des peuples et pas l'Europe de la finance ». Or, ce que nous voyons malheureusement, c'est vrai, tout ce que vous avez dit, je partage. Les peuples, eh bien, ils ont la liberté de circulation, et c'est ça qu'on a vendu à une époque. On a vendu la liberté de circulation, mais au peuple, mais surtout à la finance. Mmh. Et j'ai à titre personnel une anecdote que je vais vous... Lorsque j'étais en poste, comme on dit, au ministère de la Santé, j'ai participé à la réforme qui était la législation sur les produits cosmétiques. Je ne sais pas si vous voyez le poids de L'Oréal en France dans le cadre des produits cosmétiques. Nous avions une législation qui était assez, qui se voulait, très restrictive. Que s'est-il passé ? Un jour, je suis allée à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, en même temps que nous, en France, nous faisions cette directive, eh bien, il y avait l'Europe qui s'en est emparée. Et mes collègues du ministère de l'Industrie, que m'ont-ils dit dans le trajet entre la gare de Lyon, du Nord à Paris et la gare de Bruxelles ? Ils m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit « Oui, c'est vrai, vous, ministère de la Santé, eh bien, vous avez une vision effectivement très santé publique. Mais vous savez, les industriels, ceux qui n'obtiennent pas ici, l'obtiendront à Bruxelles. » C'est ça aussi l'Europe. Donc c'est vrai que l'Europe des peuples, et vous avez raison, c'est une belle idée, c'est une magnifique idée, mais faisons l'Europe des peuples plus que l'Europe du capital. Malheureusement, actuellement, en dehors de cet aspect-là, c'est vrai que ce qu'on voit aux portes de l'Europe nous fait un peu peur.
C'est vachement bien. Un petit extrait d'Arnaud pour commencer cette émission européenne. Nous sommes en plateau avec Flore. Vous êtes la maire de Florac. On a plein de choses à voir ensemble. Et on va commencer par une simple question. Les temps sont un peu agités. Contexte économique, écologique et social compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment va Florac au milieu de tout ça ?
Eh bien, écoutez, je crois que notre commune, en tout cas au regard de ce qui relève de nos compétences, ne va pas si mal que ça. Nous avons présenté, il y a très peu de temps, à l'occasion des vœux, le 13 janvier dernier, nous avons présenté le bilan. Nous avons un bilan qui, je crois, parle. Nous avons fait un certain nombre de réalisations. Il y en a d'autres à venir. Et puis, pour cette année, en dehors des travaux, parce que les travaux, c'est important, mais il n'y a pas que les travaux. Nous essayons de développer quelque chose aussi qui nous tient à cœur, c'est la démocratie participative dans le cadre du budget participatif. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que malheureusement, depuis notre élection, nous avons installé des commissions avec la participation de citoyens et on se rend compte au fil du temps que ça s'érode un peu, que ça s'essouffle. Alors évidemment, chacun a ses préoccupations. C'est pas toujours facile de se, disons, de donner un peu de temps au-delà de l'heure, d'une heure raisonnable. Mais nous espérons, avec ce budget participatif, relancer cette, disons, cette démarche qui nous semble importante et à laquelle nous croyons beaucoup.
François.
Oui, effectivement, il y a eu plusieurs consultations qui ont été lancées par la mairie, notamment sur la réhabilitation, sur les projets d'investissement. Et c'est vrai que le constat qui a été posé, c'est qu'il y a eu très très peu de participants par rapport au nombre total de la population à Florac. Donc c'est le constat qui a été posé. C'est vrai que à l'occasion de votre élection, il y a eu quand même une dynamique citoyenne qui était présente. Il y a effectivement des commissions qui ont été mises en place au niveau du conseil municipal, qui ont quand même fonctionné correctement au départ. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Et c'est vrai qu'il y a eu cet essoufflement et que vous avez aussi pointé du doigt à l'occasion d'un conseil municipal. Et il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, si je ne me trompe pas, vous avez fait un remue-ménage. Voilà, donc c'est une séance de travail que vous aviez déjà faite au début du mandat. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce qui est ressorti de ce travail-là? Et ce qui, en tout cas, ce qui ressort concrètement, c'est l'idée de ce budget participatif avec l'idée que ça puisse justement impliquer davantage les citoyens.
Alors, la séance de remue-ménage, nous l'avons faite, la première que nous avons faite, elle est de septembre 2022. Nous n'étions pas encore à mi-mandat, mais il nous semblait important, au regard de l'évolution justement à la fois des réalisations et puis de cette consultation citoyenne qui avait mis en numéro un des préoccupations des Floraquois le chantier des écoles. Il nous avait semblé important de faire un point. Mais le point, ce n'est pas seulement sur nos réalisations, c'est aussi sur notre mode de fonctionnement. Je ne vous cacherai rien en vous disant que au niveau d'une organisation comme la nôtre, eh bien l'organisation des services est très très importante. Et puis nous avons aussi tenu compte du fait que à l'origine, lorsque les 23 conseillers ont été élus, il y en avait 18 de la liste que j'avais l'honneur de mener, et il y en avait 5 d'une autre liste. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'au fil du temps, eh bien, il n'y a plus de différence. Et ça, pour nous, c'est très très important. Et je dois dire que cette première séance de remue-ménage, en septembre dernier, a été l'occasion vraiment d'en faire le constat, et c'est un constat partagé. Donc ça, pour moi, c'est très important. Il faut que l'équipe, et c'est mon souhait, c'est que jusqu'à la fin de ce mandat, eh bien, l'équipe reste soudée comme elle l'est. Donc ça, c'était très important. Ensuite, revoir le fonctionnement des services, non pas pour tout chambouler, mais si vous voulez, on ne gère plus une commune comme on pouvait le faire il y a 10, 15, 20 ans ou même 30 ans. Moi, j'ai été élue il y a très 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 longtemps dans une commune bien loin d'ici, et c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus simple. Et là, il faut être vigilant en permanence, il faut ne pas rater tous les appels à projets, les appels d'offres qui viennent d'un peu partout, la région, l'État, différentes structures, pour être en mesure de répondre et donc de pouvoir mettre en œuvre des réalisations. Donc ça, c'est très... Et puis aussi, c'est de plus en plus complexe. La technocratie, elle s'est abattue au fur et à mesure que les services de l'État diminuaient. On a reporté sur toutes les collectivités locales et les mairies n'y échappent pas. Donc ça nécessite effectivement une organisation et des compétences importantes. Donc il y avait aussi cet aspect-là, et ce que nous avons retiré, c'est que nous avons conforté la consultation qui avait été faite sur les investissements. Et d'ailleurs la semaine passée, nous avons eu la première réunion avec notre assistant à maître d'ouvrage pour le chantier des écoles, qui va être alors il sera au niveau de la concrétisation, ce ne sera pas avant 2024-2025, parce qu'il y a toute une opération préalable, surtout que ça va être une opération un peu complexe, vous l'imaginez. C'est comme quand on refait un hôpital. On le fait, mais on ne ferme pas l'hôpital. Et là, ce sera un peu pareil, donc il faudra une programmation, mais il faudra quand même trouver des classes ailleurs que dans les lieux qui seront l'objet du chantier. Donc,
vous avez des pistes ?
Oui, nous avons des pistes pour reloger provisoirement. Eh bien, nous avons pensé au relais des Cévennes, car je rappelle que le relais des Cévennes, à l'origine, avait été fait pour accueillir des classes vertes. Et donc, au rez-de-chaussée du relais des Cévennes, il y a 3 salles qui peuvent facilement être des salles de classe. Donc ça, c'est une première, hypothèse de solution. Et puis, ce que nous ont dit ceux qui nous ont fait l'étude, c'est-à-dire l'architecte du CAUE, c'est que peut-être il faudra envisager comme un mobilhome, peut-être, sur la place du Saguenay, peut-être. Mais ça, nous en sommes aux prémices et on verra plus clair au fur et à mesure de l'avancée de ce dossier. Alors, pour en terminer sur le remue-ménage, Nous avons refait un remue-ménage effectivement en février, donc il y a un mois maintenant, qui a été aussi consacré en grande partie au budget participatif, parce que ce n'est pas une mince affaire. Il faut, et là aussi, il fallait que nous soyons tous en phase sur les thèmes, sur le fonctionnement, qui allait décider, comment allions-nous le faire. Et je suis très satisfaite de voir que là encore, nous avons eu une très grande unanimité, avec aussi des conseillers, pas des adjoints, qui s'emparent de ces dossiers. Et je crois que c'est aussi le témoignage que notre équipe, eh bien, elle est toujours active, et c'est une grande satisfaction.
Alors, rentrons dans le détail justement de ce budget participatif. Je crois que c'est une enveloppe de 20 000 euros.
C'est exact.
Et alors, expliquez-nous un peu le processus. Donc, il faut être habitant de Florac, hein, pour pouvoir y prétendre. Comment ça se passe un peu? Et je crois qu'il faut proposer des projets jusqu'au fin avril, hein, 30 avril.
Voilà, il y a un petit, ce qu'on appelle le torrent d'infos. C'est une petite page recto verso qui permet, qui est diffusée assez largement dans les commerces, bien sûr, qui est à disposition dans la commune, et qui a pris, donc c'est un spécial budget participatif, et qui explique la démarche. Alors effectivement, nous avons donné tout le mois de mars et le mois d'avril pour que les citoyens fassent des propositions. Alors je rappelle quand même qu'il ne s'agit que d'une enveloppe sur de l'investissement et pas du fonctionnement. Alors les projets, ça peut être quelque chose de très petit, mais qui apparaît comme important pour un quartier, pour une zone. Je prends un exemple. En fait, le budget participatif, bien sûr, ça fait partie, je dirais presque, de notre ADN, mais c'est une démarche qui nous a été aussi mise sous les yeux par une demande qui est venue d'une association, l'Association des Fontaines. Et ça, on a trouvé extraordinaire d'être interpellé par des citoyens qui ont créé une association pour embellir la ville, pour remettre en eau, soit de source, soit en circuit fermé, bien évidemment. Hein,
on parlera de l'eau tout à l'heure.
Voilà. Eh bien, le patrimoine, parce que c'est du patrimoine. Les fontaines font partie du patrimoine de Florac. Mmh. Donc, on a trouvé cela formidable. Et ce qu'on espère, avec ce budget participatif, c'est de susciter d'autres projets de ce type. Alors, plus ou moins grand. Alors, c'est vrai, 20 000 euros, c'est pas énorme, mais ça permettra peut-être de donner satisfaction dans peut-être des lieux ou sur des secteurs ou dans des projets auxquels on ne pense absolument pas. Et c'est pour ça qu'on fait appel à la population. Donc, effectivement, il y a 2 mois pour déposé. Je signale aussi que les jeunes à partir de 16 ans peuvent le faire, mais avec quand même l'accord des parents. Hein. Il faut que les parents... Alors bien sûr, il faut que ce soit des Floracois. Hein. On n'acceptera pas des demandes des communes avoisinantes, même si nous sommes très liés, mais non. Il ne s'agira que de Floracois. Et une fois que les dossiers auront été déposés, il faut quand même une description, il faut une estimation aussi du budget, ce serait plus facile. Eh bien, il y aura une commission que je présiderai, et avec, à parité, des élus et des citoyens. Et pour les citoyens, il faut simplement qu'ils s'inscrivent. Et nous avons déjà, enfin, j'ai vu, je ne vois pas tout, mais je sais qu'il y en a au moins un qui s'est inscrit, et très très vite d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que nous arriverons à décider fin mai, des lauréats. Alors, bien sûr, si le montant de toutes les propositions dépasse les 20 000 euros, ben à ce moment-là, on fera une consultation citoyenne et on mettra à la consultation tous les projets pour voir ce que la population estime comme plus prioritaire. À l'inverse, si les projets sont inférieurs, eh bien, ce qui n'aura pas été dépensé sera remis au pot commun pour l'année prochaine.
L'année qui suit. Vous dites Florac, la salle Prunet fait partie de Florac, ça marche donc ?
Ah oui, bien sûr. Florac Trois-Rivières, hein.
Ouais, okay.
Soyons précis, Florac Trois-Rivières.
C'est important.
Et les citoyens, juste, ils peuvent candidater jusqu'à quand, alors, à cette commission ? C'est 30 avril aussi ?
Oui, je reprends quand même mon petit papier. Pour les... Oui, compléter le coupon d'inscription recto, et c'est jusqu'à la fin, puisque en fait, les citoyens, nous en aurons besoin qu'à partir du moment où nous aurons les projets. D'accord. Et où nous réunirons la commission. Voilà.
Alors, toujours dans le but d'impliquer les habitants au maximum, sur votre site, il y a une enquête qui a été faite qui concerne la santé, c'est bien ça,
le CLS. Alors ça, c'est... Alors, le CLS, ce n'est pas la commune, c'est la communauté de communes. Mais je connais un petit peu le dossier, parce qu'en tant que première vice-présidente de la communauté de communes, en charge des solidarités, c'est donc moi qui étais responsable de ce contrat local de santé. Ce contrat local de santé, alors là, je crois qu'il faut être très, très clair. Et je l'ai dit récemment au dernier conseil communautaire à mes collègues maires de notre... nous sommes en tout 17, donc aux 16 autres maires. Je leur ai dit, n'attendez pas que ce contrat local de santé vous permette d'avoir un médecin. Ça, non. Des médecins, on n'en a pas. On n'en a ni dans notre besace, et il y en a, vous savez tous qu'il y a un manque criant de médecins. Donc ce n'est pas ça. Le contrat local de santé, il a pour but de travailler et de faire progresser dans notre pays, qui en a fort besoin, l'éducation à la santé, la prévention et l'éducation à la santé. Ce sont des thématiques. La France est malheureusement très, très en retard en matière de prévention. Notre système de santé a toujours été, ou quasiment toujours été, orienté sur l'hospitalocentrisme, c'est-à-dire sur le soin et en particulier à l'hôpital, ce qui est d'ailleurs maintenant de moins en moins vrai, mais bon. Mmh. Et donc, nous sommes là pour aider la population à être... dans une démarche de prévention, d'éducation à la santé. Et actuellement, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, l'obésité est un véritable fléau social. C'est un fléau de santé, mais un fléau social. Parce que ce qu'on remarque dans les statistiques, c'est que ce sont les catégories sociales les plus défavorisées où nous trouvons le plus de tendance à l'obésité et d'obésité. Donc il y a un lien très fort. Et donc, ce que nous espérons, c'est que aussi par rapport à la démarche que nous avons sur l'alimentation dans nos écoles, faire ce lien entre santé, alimentation et faire de la prévention et de l'éducation à la santé. Donc c'est ça le contrat local de santé qui va intéresser tout notre territoire, donc les 17 communes. Et c'est pourquoi un questionnaire a été lancé et il a été mis à disposition dans les 17 communes des habitants qui voudront bien y répondre.
Auditeur, je vous mettrai le lien sur notre site tout à l'heure. Alors justement, créer des postes de santé, vous l'avez dit, c'est quasi impossible. On manque de médecins. C'est quoi la marge de manœuvre que vous avez en tant qu'élu?
Aucune.
Oh, on est d'accord.
Aucune. Nous n'avons aucune. Bon, nous nous sommes inscrits dans la préconisation qui était faite par les pouvoirs publics de créer des maisons de santé pluriprofessionnelles. D'accord. Des investissements ont été faits pour cela. Mais la maison, nous pouvons la construire, mais nous ne pouvons pas la remplir. Voilà.
Cette dynamique autour du contrat local de santé, est-ce que vous espérez aussi qu'elle puisse répondre, alors effectivement non pas aux besoins, enfin c'est difficile de recruter des médecins, mais il y a des manques criants de personnel de santé et des aides-soignants à l'hôpital comme dans d'autres structures. Est-ce que là-dessus, cette dynamique liée au contrat local de santé, elle peut essayer d'apporter des solutions?
Alors, moi, je suis assez mesurée sur les capacités de remplir, je dirais, les manques que vous signalez à juste titre. Notamment, je sais que dans notre hôpital de proximité à Florac, il y a un manque effectif et réel d'aides-soignants. Moi, je crois surtout que le débat, il est ailleurs. Le débat, il est sur l'attractivité de ces professions. Mmh. Il y a une partie salaire, bien évidemment, mais il y a aussi une partie conditions de travail et aussi une appétence. Je veux dire, ça fait combien de décennies qui font qu'on a sous-estimé énormément de professions. Bon, on parle de celle-là, mais il y en a bien d'autres. Comment trouver un plombier actuellement? Comment trouver un électricien? Le problème, il est là. Le problème, il est aussi le résultat de ces décennies où c'est très bien d'amener 80% d'une classe d'âge au bac, c'est très très bien. Mais en parallèle, il faut montrer que le bac eh bien, peut aussi amener à des professions qui sont autres que, par exemple, de l'informatique ou je ne sais quoi. La réalité, elle est là. Donc, c'est vrai que je crois qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a aussi une prise en compte de cette nécessité afin de permettre à des jeunes collégiens et des jeunes lycéens surtout, d'envisager une carrière professionnelle autrement, sur un autre plan que simplement des carrières qui nécessitent des études, disons, non pas très longues, mais des études plutôt généralistes.
Oui, c'est vrai. Alors, vous l'avez abordé tout à l'heure, l'hôpital va être restauré, c'est ça? Est-ce que les dates sont assises?
Alors, actuellement, si vous voulez, alors, bon, moi je suis présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, mais depuis la réforme de la loi Bachelot, où on est devenu non plus président du conseil d'administration, je parle des maires, mais président du conseil de surveillance, c'est comme si on n'était rien du tout. Donc ça, c'est la réalité. Et cela étant, j'ai d'excellentes relations avec la directrice ici à Florac, avec le directeur qui est à Mende, puisque Florac est une entité qui aussi dépend de Mende. Et nous avons donc, après avoir désigné le lauréat, je parle de l'équipe de maîtrise d'œuvre, actuellement, le travail, aux dernières nouvelles qu'on m'a communiquées, le projet en serait à l'avant-projet sommaire. Donc, qui va être sans doute présenté bientôt. Et je pense que c'est un dossier dont la réalisation sera en 2025-2026, voilà, à peu près, hein, à peu près.
Le but aussi, quand on parle de notre magnifique région et ville, le but c'est de rendre attractif le territoire, alors tant en termes d'activité qu'en termes de logement. Commençons par la difficulté de se loger. Là encore, il y a des choses qui sont mises en place par la mairie de Florac. On avait parlé de l'Ilodi de l'année dernière. Voilà, ça c'est super parce que ça a vraiment redynamisé. On l'a vu, hein, on voit que cette place est géniale. On va parler de l'île aux Pluelles. Le projet, on est où?
Alors, le projet, eh bien, le permis de construire a été déposé. Et nous avons une réunion très prochainement, la semaine prochaine, pour faire le point, parce que nous avons une... Alors, sur l'île aux Pluelles, il s'agit de 7 logements. Mais nous sommes dans une opération un peu complexe, comme à l'île aux Dides, c'est-à-dire une opération avec l'Agence nationale de l'habitat. Et pour être éligible à ces dispositifs, il faut rénover, comme nous l'avons fait à l'île aux Dides. C'est-à-dire, quand il y a des murs qui sont un peu fragiles, il faut les remettre en état et non pas les démolir pour reconstruire. Et sur l'île aux Pluelles, il y a une difficulté parce que le bloc nous permet de faire 5 logements. Et sur une petite partie du terrain, du foncier disponible, il y a des vagues ruines qui permettraient de faire 2 petites maisons. Mais là, on n'est pas dans une réhabilitation. On serait quasiment dans une construction. Alors, bon, là, il y a un problème. Et puis, le dernier problème, c'est pour ça que nous avons une réunion la semaine prochaine pour faire vraiment le point, c'est que le permis de construire, lorsqu'il est revenu, il a été validé, mais avec une contrainte qui nous a un peu chagrinés. C'est que l'architecte des bâtiments de France impose que nous mettions une toiture en lauze. Ah. Et donc la lauze a un certain surcoût, donc nous allons étudier tout ça pour voir comment réagir et quelle est la possibilité financière de continuer dans une telle... nous avons une réunion le 23, donc c'est très proche, mais sinon à l'origine c'est un projet de 7 nouveaux logements.
Espérons que ça va le jour. François ?
Oui, donc effectivement, cette question du logement, elle est primordiale. Hein. Il y a beaucoup de citoyens qui réfléchissent là-dessus. D'ailleurs, à noter que ce mercredi, à l'Encrier, à 18h, il y a une soirée d'échange ouverte à tous pour réfléchir et agir collectivement sur cette problématique. Donc on a abordé les marges de manœuvre des collectivités. Donc l'exemple de l'île aux Dides et l'île aux Pluelles sont très intéressants. On parle de logement, mais il faut aussi qu'on aborde la question des commerces. des services, et notamment il y a aussi le sujet d'actualité lié notamment à la pompe, aux bâtiments de Wirberg qui sont toujours à reprendre. Donc il y a une opération qui a été lancée avec la foncière Village Vivant pour essayer de faire en sorte que le bâtiment puisse être affecté donc à un collectif, parce qu'il y a, il y a la pompe bien sûr qui est dessus, que ça fait un moment que la pompe recherche un local sur Florac, et il y aurait également d'autres entités qui seraient intéressées pour rentrer dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où ça en est ? Parce que les collectivités se sont impliquées là-dessus également.
Alors oui, je vais vous répondre, mais je voulais revenir quand même sur le logement. Il faut que vous ayez quand même en tête une chose, c'est que tout le monde en Lozère, et pas qu'à Florac, tout le monde est mobilisé pour le logement. Pourquoi ? Parce que l'opération et la démarche volontariste d'attractivité du territoire passent par le logement. Je vous rappelle quand même une chose, c'est qu'à Florac, nous avons 34% de logements secondaires, résidences secondaires. Il est là le problème. Le foncier, il est ce qu'il est, nous ne pourrons pas étendre le foncier. Donc, nous sommes face à cette situation, et je rappelle que depuis bien des années, entre autres, le PETR, en lien avec le département, a fait des actions auprès des propriétaires, justement, de résidences secondaires, afin de leur demander, peut-être, d'envisager autre type de location que des locations ponctuelles. Bon, voilà, je voulais aussi préciser ça, parce que si on n'a pas ces chiffres en tête, ben, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réponses à donner. Alors, concernant la pompe, effectivement, alors c'est un dossier qui est suivi, comme vous l'avez dit, par cette foncière Village Vivant, avec un certain nombre, la pompe, mais aussi d'autres partenaires qui seront intéressés, une librairie, un torréfacteur, etc. Et nous nous sommes engagés parce que Village Vivant, effectivement, est une foncière dont la mission est d'éviter la spéculation. Donc ça, c'est quand même important, et c'est une démarche tout à fait vertueuse. Et dans cette démarche-là, ils ont besoin effectivement de l'aide et de l'accord et du partenariat avec des collectivités. Et donc, la communauté de communes et nous-mêmes communes, nous sommes engagés à, disons, apporter. Alors, il faudra voir exactement la somme qui sera nécessaire, mais c'est une somme qui n'est pas la plus importante, loin s'en faut, mais le fait que des collectivités soient dans cette opération, eh bien, pour la foncière Village Vivant, c'est important de pouvoir être soutenu par les collectivités locales, et en particulier la communauté de communes qui a la compétence économique. Le département pourra intervenir aussi, mais surtout la région, parce que le principal leader en matière économique, c'est la région.
Et vous venez de l'aborder là, le département, justement, on parle de l'ancienne poste là qui va être rénovée, c'est un bâtiment du département.
C'est pas l'ancienne poste, enfin c'est l'ancien hôtel de la poste.
L'ancien hôtel de la poste.
Soyons précis.
Oui, tout à fait.
Donc l'ancien hôtel de la poste, et le département en a fait l'acquisition, effectivement.
Tout comme l'ancien tribunal. Quelles sont les relations que vous entretenez avec ce genre d'institution ?
Eh bien écoutez, par exemple, nous sommes en liaison très étroite dans le cadre du projet le contrat de territoire, qui fait que moi j'ai trouvé cette démarche tout à fait intéressante, parce qu'actuellement on se rend quand même compte que de tous nos financeurs, puisque je parle de l'investissement essentiellement, sur l'investissement nous avons disons en gros trois financeurs potentiels, l'État en particulier et en majorité, mais nous avons la région et nous avons le département. Et grâce à ce contrat de territoire, le département est toujours fidèle au rendez-vous, et je dirais que c'est celui qui nous subventionne avec régularité. Dès qu'un chantier est entamé, dès qu'il est achevé, nous n'avons jamais à courir après le département, donc c'est quelque chose de très très appréciable.
Alors, on va finir sur l'urbanisme, puisque dans le petit fascicule que vous aviez distribué pour les vœux à mi-mandat, dans les projets à venir, il y aurait une réflexion, si j'ai bien compris, sur le plan local d'urbanisme.
Oui, alors c'est une démarche qui est largement engagée. Nous avons donc des ateliers qui se réunissent. Alors, actuellement, ces ateliers fonctionnent sur des thématiques. Nous en avons eu sur l'économie, sur les mobilités, sur le logement, bien évidemment, sur les réserves agricoles, etc. Et dans ces ateliers, nous avons essentiellement des élus, mais nous avons des techniciens également. Et lorsque nous sommes donc en phase diagnostique de l'existant, et lorsque nous aurons terminé là à la fin du mois, à la fin de ce mois, les ateliers, nous en avons encore un la semaine prochaine. Eh bien, il y aura donc le bilan qui est fait par, notre assistant et qui sera bien évidemment soumis à la population. Mais nous avons déjà, dans le cadre de l'information qui a été donnée sur cette révision du PLU, nous avons déjà des demandes, bien évidemment, de citoyens qui souhaiteraient que telle partie soit rendue constructible, etc., etc. Donc, voilà. Alors, la tendance que nous avons, c'est effectivement, je l'ai dit, le foncier, il n'est pas immense. Donc, c'est préserver une des lignes conductrices, c'est de préserver au maximum les terres agricoles. Et puis, le long du Tarn, de revenir vraiment à du maraîchage quasiment partout, sur toutes les petites parcelles, mais qui était à l'origine une évidence dans notre ville, puisque les personnes, les habitants étaient à l'intérieur de la ville, dans les remparts, comme on disait, et ils avaient leur jardin en bord de Tarn. Et c'est c'est à préserver. Et puis, on a parlé du logement tout à l'heure. Pour le logement, on n'est pas... Alors, il y avait un projet d'un éco-hameau à la Salle Prunée. Il y a déjà pas mal d'années de cela. Il y a combien, 7-8 ans en arrière. Et c'est un projet qui était passé auprès de la commission des sites, mais qui avait été abandonné pour différentes raisons, que nous avons ressorti. Nous ne savons pas s'il pourra se faire. Il est un peu au-dessus de la voie verte. Et ça pourrait être aussi un projet, mais pour l'instant, nous n'avons pas, nous ne savons pas jusqu'où nous pourrons aller dans ce type. Mais en tout cas, l'important, c'est aussi de zoner notre commune. Zoner, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut y faire au niveau des commerces, au niveau du logement, bien sûr, au niveau des terres agricoles, au niveau des emplacements réservés. Quels sont les équipements qui, à échéance de 10, 15, 20 ans, seraient nécessaires? Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Juste pour bien comprendre, l'éco-hameau, c'était un projet qui était porté par la communauté de communes.
Oui, exactement.
À l'époque, là, ce serait la mairie qui reprendrait le flambeau.
Mais si vous voulez, lorsque le projet d'éco-hameau qui était sur la Salle Prunée a été abandonné, la communauté de communes a rétrocédé à la commune le terrain.
D'accord.
Donc c'est maintenant la commune qui est propriétaire.
Il est 9h09 sur Radio Bartas. On va faire une petite pause musicale dans ce moment que l'on passe avec vous. On écoute une jolie découverte. Il est guitariste, chanteur, trompettiste, entre autres. Il s'appelle Voyou et il est sur Bartas.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Passer des heures avant entre les marronniers, à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas des journées joyeuses, et c'était
t'es pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau retiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux.
C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut.
Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux.
Voyou sur Radio Arthas. Alors, de retour en plateau avec Flore, maire de Florac. François est avec moi, Arthur à la technique. On va évidemment parler de mobilité et commençons par parler de circulation. Hein. L'année dernière, sur cette antenne, vous nous aviez dit qu'il y avait trois réflexions sur le sens de circulation qui étaient à l'étude sur l'avenue Jean Monestier. On en est où ?
Alors, nous avons progressé avec, des consultants, parce que dans ce genre d'affaires, il ne faut pas faire n'importe quoi, si j'ose dire. Il faut être à la fois prudent et réaliste. Alors, je l'ai dit à l'occasion des vœux du 13 janvier dernier, j'ai dit que pour nous, la priorité, c'est, première priorité, le piéton. Deuxième priorité, le vélo. Et troisième priorité, la voiture. Ce qui d'ailleurs a fait comprendre à certains, ou croire à certains, que la maire de Florac a été complètement folle et qu'elle allait supprimer la voiture dans la ville. Alors, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de permettre aux piétons en priorité de cheminer, en particulier dans l'avenue Monestier, de façon sécure. Alors, actuellement, nous avons, entre la chargée de mobilité du PETR plus un responsable de la région qui est sur les mobilités, nous nous acheminons vers une mise en sens unique, une prolongation du sens unique de l'avenue Monestier jusqu'au collège. Mmh. Le problème, c'est que pour ceux qui empruntent cette voie, alors les piétons, c'est une horreur, parce qu'on ne peut pas circuler. Je ne vous parle pas des mamans ou des papas avec des enfants. Et les vélos, ça n'est pas mieux. Donc, il y a actuellement un cheminement qui est fait, disons une étude de cheminement qui est faite, pour voir dans quel sens on va mettre les piétons, sur quel côté on va les mettre, et quelle va être la limite pour les véhicules. Sachant qu'il y a aussi le problème du respect du 30 à l'heure, qui n'est absolument pas respecté ou quasiment pas respecté. Donc, nous attendons que les travaux de la rue du Terron soient finis. Nous attendons que la saison estivale soit finie pour faire un essai sur cette prolongation de la mise en sens unique. Alors, évidemment... comme en toute chose, il y aura des inconvénients, c'est sûr. Donc, l'inconvénient, et on s'est beaucoup interrogé, et c'est pour ça qu'on a fait appel à des spécialistes, parce que, encore une fois, le sens de circulation et la circulation dans une commune, ça ne s'invente pas, il y a des règles à respecter. Et donc, nous aurons certainement nécessité de prendre des habitudes que nous avons prises pour un certain nombre d'entre nous avec le chantier de la rue du Terron, car on utilise beaucoup plus la nationale en voiture. Je parle en voiture, pas à pied ni en vélo, mais on utilise beaucoup plus la nationale. Et je crois qu'il faudra se mettre ça en tête, qu'il faudra l'utiliser un peu plus. Alors ça, et puis aussi ce qu'on a remarqué, c'est qu'en faisant le compte du nombre de parkings, mais surtout d'emplacements, on est quand même sur un nombre d'emplacements de parkings importants, de places de parking, mais les parkings ne sont pas bien signalés, Et aussi, je crois qu'il ne faut pas être esclave de la vision de l'été. C'est vrai que l'été, il faut le dire, tout le monde ne pourra pas se garer, c'est clair. Et nous n'avons pas, comme certains, par exemple, je pense à Ispagnac, où il y a le Pré Morgeal, enfin à côté, qui permet l'été d'avoir du dégorgement. Nous, nous n'avons pas ça. Donc, il faut en tenir compte, et voilà. Et d'ailleurs, à cet égard, la gendarmerie qui est avec nous pour justement nous orienter aussi, nous dit que, bien évidemment, l'été, et même à certaines occasions, la foire de Pâques par exemple, ils admettent que les gens se garent le long de la nationale. Voilà, c'est des tolérances qui sont dues à notre situation. Et au fait que nous n'avons pas des espaces permettant d'accueillir de façon ponctuelle un afflux de véhicules.
Sûr que c'est pas extensible tout ça, François.
Oui, toujours sur la question de la mobilité douce, la commune avait fait l'acquisition de vélos électriques pour les habitants de Florac, et notamment dans l'idée de que ces personnes utilisent. En tout cas, testent le vélo, notamment pour un trajet pour aller travailler. Où ça en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fait une première évaluation ?
Oui, nous avons fait une évaluation. Donc, nous avions fait l'acquisition de 10 vélos, mais deux étaient dédiés au service, un au service technique et l'autre au service de la police municipale. Donc ce sont 8 vélos qui ont été mis à disposition. Ils sont tous rentrés à la fin au début de l'hiver, et ils doivent passer d'ailleurs au contrôle, c'est nécessaire. Et globalement, les gens étaient plutôt satisfaits. Il y en a un certain nombre qui l'avaient pris pour voir pour eux-mêmes, et ça aboutit à, il y en a environ 2 qui ont fait des acquisitions, donc pour leur quotidien, je dirais. Alors c'est vrai que l'hiver, il y a moins d'appétence, hein. C'est sûr que quand on n'est pas habitué au vélo, l'hiver c'est moins facile. Donc dès qu'ils auront subi le contrôle obligatoire, nous allons les remettre à disposition, et nous verrons si la population, disons si ceux qui empruntent sont des... Il y avait plus de femmes que d'hommes dans les 8 qui sont venus les prendre, et la durée moyenne, ça allait de 1 mois à 3 mois d'utilisation. Donc je pense que c'est bien. Moi je crois que ça va encore se développer, et ces 8 vélos, ben, c'est en fait une aide à ceux qui sont indécis, à ceux qui se posent des questions.
De la mobilité douce à l'environnement, il n'y a qu'un coup de pédale de vélo. D'abord, commençons par, si j'ai bien compris, une réflexion sur la gestion incendie.
Oui. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que cet été, nous avons eu quand même une saison particulièrement sèche et malheureusement propice aux incendies. Sur notre communauté de communes, il y a une commune qui a été très très en difficulté, c'était Saint-Pierre-des-Tripiers. Et cette situation, conjuguée au fait que ce qu'on appelait les ASA, les associations des FCI de défense du feu et contre les incendies, défense de la forêt contre les incendies, était tombée un peu, non pas en désuétude, mais en sommeil, faute de moyens financiers, puisque il y a quelques années, l'État ne participait plus aux frais de ces associations. Alors, on s'est réveillé, si j'ose dire, et on s'est réveillé bien parce que les incendies ont été encore une fois cet été à nos portes. Et que nous sommes très conscients que les maires ont une grosse responsabilité dans ces affaires-là, et qu'il est impossible, lorsqu'on est un élu, de ne pas anticiper les responsabilités. Et donc, nous avons lancé effectivement une réflexion, et alors au niveau de la communauté de communes. Sachant qu'un incendie n'a pas de frontières, hein. Un feu, lorsqu'il démarre, il peut aller un peu partout. Enfin, un peu partout. Disons, il ne se limite pas à la frontière ni d'une commune, ni d'une communauté de communes. Mais nous pensons que c'est important. Et sur le territoire, nous avions plusieurs associations. Quand je dis notre territoire, c'est le territoire de la communauté de communes. Donc, nous allons faire une étude sur l'ensemble de notre territoire. Et en plus, l'État, qui a été aussi alerté par la situation de l'été dernier, nous a demandé à toutes les communes de France de désigner un référent feu. Donc, dans chaque commune, nous avons un référent feu. Et nous aurons, grâce à ces référents, donc toutes les communes, plus l'aide d'un organisme comme la COFOR, qui est, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais ça, c'est la forêt en tout cas, et une aide importante. Nous avons aussi l'ONF, parce que l'ONF a une connaissance, alors la forêt publique, sachant que quand même l'essentiel de la forêt est privée. Donc ça, il va falloir aussi sensibiliser les propriétaires de forêts privées. Pour, et puis aussi peut-être les chasseurs, parce que les chasseurs, ils connaissent très très bien le terrain. Ils peuvent aussi avoir des visions où il y serait nécessaire de faire du débroussaillage. Et puis une autre solution aussi, ben, c'est l'agropastoralisme. Hein, voilà. Donc la réunion a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. Et nous allons continuer à essayer d'établir un plan. Un plan de prévention, en fait, pour éviter eh bien, que les incendies, s'ils démarrent, ne fassent pas trop de dégâts.
Faire gaffe aux écobuages et bien sûr ne pas jeter son mégot par terre, c'est du bon sens. François.
Un autre sujet brûlant, si je peux me permettre cette allusion, c'est la question de l'eau.
Oui.
Donc c'est un sujet effectivement très fort. Vu l'année dernière ce qui s'est passé, donc une canicule, une grande sécheresse.
Et qui continue d'ailleurs encore.
Et de grosses difficultés d'approvisionnement de l'eau, particulièrement sur le Cosmégean. Je voulais vous faire réagir par rapport à l'interview du préfet Philippe Castanet, le préfet de Lozère, donc dans un article de Midi Libre qui est paru vendredi dernier. Donc le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a demandé au préfet de prendre sans tarder d'éventuels arrêtés de restriction d'usage de l'eau pour anticiper les difficultés de l'été. Et dans cette interview, je cite... Il considère qu'en Lozère, cela ne sert à rien de faire peur avant la fin avril, début mai. Du coup, par rapport au contexte actuel quand même, il y a eu très peu de précipitations cet automne, cet hiver. Actuellement, on a un petit peu de précipitations, mais les nappes phréatiques sont loin d'être remplies. Est-ce que vous considérez que... le positionnement du préfet est raisonnable, j'ai envie de dire.
Bah, écoutez, moi, je fais confiance. S'il a dit ça, c'est pas par hasard. Je pense que c'est un homme qui connaît mieux que quiconque ici autour de la table la réalité des territoires, de par sa formation, très certainement. Et d'autre part, nous, c'est vrai qu'au niveau de Florac, on a été plutôt privilégiés, hormis sur le Causse. Donc, qu'il faille ne pas affoler les populations. Moi, ce que j'ai retenu de son interview, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que de l'eau, il y en a, mais elle n'est pas au bon endroit. C'est ça, surtout, qui est important. Et je crois qu'effectivement, alors le problème, c'est de savoir comment faire approvisionner là où il n'y en a pas par là où il y en a. Donc, c'est vrai que ça, c'est un problème. Donc, je fais confiance à ce genre de déclaration qui, pour moi, connaissant un petit peu le préfet, ce n'est pas une, me semble-t-il, c'est certainement une déclaration qui est fondée sur des éléments techniques très précis.
Est-ce qu'il y a des décisions qui vont être prises par la mairie de Florac, justement, sur la gestion de l'eau, ici, à la sortie du...
Ah oui. Notamment sur les plantations, figurez-vous, et sur le fleurissement, nous aurons une ville sans doute bien moins fleurie que les autres années, parce que l'été dernier, ça nous a quand même bien embêtés. Et nous étions à la limite de ce que nous aurions dû faire, il faut le reconnaître, car approvisionner en eau des bacs à fleurs, des espaces verts, et c'est vrai que c'est très très coûteux en eau. Donc on a justement, la semaine dernière, il y a eu un tour de ville qui a été fait par l'adjointe en charge de l'environnement, avec le responsable des espaces verts de la commune, pour limiter, on va retirer un certain nombre de jardinières qui existaient, pour ne maintenir que quelques points. Alors ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, évidemment, c'est de... Et là, le responsable des espaces verts est très mobilisé là-dessus. C'est de trouver les essences et les variétés les moins consommatrices en eau. Ça, c'est une obligation. C'est absolument une obligation. Et pour en revenir aux fontaines, je signale que celles qui sont alimentées par une source naturelle, eh bien, elles le demeurent, sachant que l'eau de source naturelle, elle finit de toute façon dans le ruisseau, dans le Tarnon en particulier, donc voilà. Et pour les autres, il s'agira d'un circuit fermé.
Les petits torrents font les grands fleuves. Est-ce qu'il y a d'autres projets en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique ou l'environnement, tout simplement, ici à Florac?
Le réchauffement climatique, on est quand même dans les économies d'énergie qui nous... Et notamment, il y a le plan de rénovation des immeubles. Alors, il y a les immeubles, disons, qui relèvent du public. Et il y a aussi le parc de logements que nous avons, logements individuels. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on va lancer les opérations, mais au fur et à mesure.
Le temps passe super vite. Ce samedi, on passe vraiment à toute autre chose. Ce samedi, avec Radio Barthas, on organise un plateau sur les discriminations en milieu rural, axé plus particulièrement sur le racisme. Comment il est vécu, comment il est perçu. Nous serons notamment avec RESF et ATTAC. Est-ce que vous avez déjà eu des témoignages en tant que maire de personnes qui subissent ici à Florac ce genre de discrimination? Ou finalement, est-ce qu'on a de la chance et Florac est plutôt une ville ouverte et accueillante?
Écoutez, à titre personnel, je n'ai jamais eu de ce type de témoignage. Peut-être que ce n'est pas venu jusqu'à moi, mais je n'en ai pas eu. Alors de là à dire que Florac est accueillante, je l'espère en tout cas. Est-ce que c'est une certitude? En tout cas, c'est un peu un constat qu'on peut faire, même si de ci, de là, on peut avoir des réactions qui soient quelquefois un petit peu décevantes. Mais bon, je n'ai pas eu ce genre de témoignage. Mais si des personnes se sentent victimes de ce type, qu'elles n'hésitent pas à venir me voir.
On parle du contexte politico-social, François ?
Oui, en lien avec l'actualité sociale du moment, liée à la réforme des retraites et aux nombreuses manifestations et grèves qui ont cours, la mairie de Florac a pris une position durant ces journées d'être mairie solidaire de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui a motivé cette décision? Et est-ce que ça va être encore le cas ce mercredi?
Alors, vous savez, je suis une vieille dame, mais depuis très très longtemps, lorsque je l'ai dit d'ailleurs publiquement, j'ai depuis très jeune milité pour la retraite à 60 ans. Et pour moi, ce n'est pas, favoriser la paresse ou je ne sais quoi, c'est la vie tout simplement. Et d'ailleurs, ce que disent les Français, c'est très clair. Lorsque vous demandez à des Français ce qu'ils retiennent depuis les années 81, vous voyez, 1981, les réformes les plus importantes, il y a deux choses qui reviennent. La retraite à 60 ans et la cinquième semaine de congé. Mmh. C'est pas rien, ça. Donc effectivement, pour moi, cette réforme, elle est politique, elle est idéologique, elle n'est pas financière, car on ne va rien gagner à cette... Mais elle est tout à fait pénalisante, et la façon dont elle est menée avec, ce mépris à la fois, pas seulement de la rue, parce que quand on parle de la rue, c'est toujours un peu péjoratif, mais des Français qui se mobilisent, des organisations syndicales, eh bien, je trouve ça inadmissible. Et donc, effectivement, il me semble qu'être solidaire de ces mouvements, personnellement, ça fait partie de mon ADN, ça c'est clair. Et donc, je vais proposer effectivement que mercredi encore, en tout cas le matin, nous soyons mairie solidaire. C'est-à-dire que je n'oblige bien évidemment personne à faire grève au niveau de la commune, mais une matinée, le public n'aura pas accès au bureau. Voilà.
On arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qui est le question un peu personnelle, le plus difficile quand on est élu d'une petite ville comme Florac?
Bien, le plus difficile, c'est de tenir la corde. Hein. Je vous l'ai dit, je suis une vieille dame. Se lever tous les matins à 6h30, c'est pas toujours facile. Mais bon, on le fait. Et puis, on est quand même encouragé par les collaborateurs qui sont très, très, très bienveillants. Et puis, par tous les collègues. Et voilà. Et puis, par le sentiment eh bien, d'être utile à quelque chose.
Merci beaucoup d'être venu nous voir, Flore Matinale. Vous êtes évidemment la mère de Florac. François, merci beaucoup.
Merci à toi.
À la prochaine, avec plaisir. Merci beaucoup à Arthur qui était à la technique. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve mercredi. On se quitte avec Juliette. J'aime pas la chanson, parce que ça me faisait bien. Ouais. Restez bien sur Bartas, on y est pas trop mal. À mercredi, ciao.
J'aime pas la chanson. On ne peut pas s'y fier. C'est par effraction qu'elle préfère entrer. La v'là qui se radine. Et dès le réveil, elle vient en chafouine te ronger l'oreille. Et dans ton cerveau, v'là que tourne en rond à coups de marteau. Trois notes à la con. J'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle sait pas se tenir. Quand on a le bourdon, ça la fait sourire. Elle pleure sa misère quand le ciel est bleu. Ou bien le contraire, elle sait pas ce qu'elle veut. Faut voir comme elle change d'avis et de ton. Et comme elle mélange serviette et torchon. J'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire les pimpons, qu'elle perde son souffle, la patoufle en moufle, qu'elle reste où je remets, qu'elle livre aux batailles, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle se prend pour quoi, donneuse de leçons, en grand tralala, la voilà qui hue, la voilà qui gronde. Et même pas foutu de changer le monde. Mais tant qu'elle n'essaye qu'avec des flonflons, c'est pas demain la veille, la révolution. J'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson. Souviens-toi, dit-elle, d'un air polisson. De quoi elle se mêle, ne lui dites pas. Elle répète tout ce qu'elle dit de moi, elle le dit de vous. L'amour et la mort et les trahisons. Que ce soit mon sort, c'est pas ses oignons. J'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire les pimpons, qu'elle perde son souffle en pantoufle en mouf, qu'elle livre bataille, qu'elle reste ou s'en aille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. Pas la chanson, c'est parce que sans doute j'en connais le fond, les cales et les soutes, tant d'heures de trim et tant de questions. À bouffer la rime, à bouffer du son, c'est une vie entière pendue au crayon, tout ça pour ne faire pauvres ambitions, rien qu'une chanson. Une qui se démène, une qui se promène, une qui s'amourache, qui porte moustache, une qui s'époumonne, se tire les pimpons, une qui perd son souffle, la patte douffle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste ou s'en aille, qu'elle dise oui ou non, rien qu'une chanson.